Bonjour, vous écoutez Transistor et vous êtes avec les élèves de 4e du lycée Luc Lesmeur à Lesneuvin. Cette année, avec la radio, nous avons travaillé sur les questions LGBTQIA+.
Et pour parler du sujet, nous recevrons aujourd'hui Malo et Oel. Ils font partie des personnes qui ont fondé l'association Brest-la-Trans non-binaire et en questionnement. Bonjour Malo et Oel.
Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire être trans?
Être trans, c'est quand un bébé naît, on va lui assigner un genre en fonction souvent de ses parties génitales. Et du coup, être trans, c'est se rendre compte que le genre qu'on nous a donné à la naissance, il correspond pas à comment tu le ressens. Par exemple, moi j'ai été assigné fille à la naissance, et plus tard j'ai dit non, en fait ça me va pas d'être une fille. Et du coup, je suis devenu, entre guillemets, un homme.
Comment vous avez su que vous étiez trans et à quel âge? Et est-ce que ça a été difficile à vivre?
Moi, je m'en suis rendu compte à 24 ans, 23-24. J'avais commencé à me poser des questions sur le genre un peu toute ma vie, je pense, mais j'avais aucune idée de ce que c'était que les personnes trans, j'en connaissais pas. J'en voyais pas ni à la télé, ni trop dans les livres, donc en fait, j'avais des questions, mais aucune réponse. Et j'ai commencé à avoir des réponses quand j'ai déménagé à Brest et que j'ai rencontré d'autres personnes trans. Ça a été assez facile du coup parce que j'avais plein d'amis qui se posaient les mêmes questions que moi et qui avaient un peu les mêmes vécus. Du coup, ça a été très aidant d'avoir ce support-là.
Moi, c'était un peu plus jeune quand j'étais ado. Et c'était pas si difficile, je pense qu'il y a plein de personnes pour qui ça peut l'être selon l'entourage, selon la famille, les amis, etc. Plutôt moi ça allait, genre les amis c'était ok, les parents c'était un peu plus long mais ça l'a fait aussi. Et ouais maintenant c'est carrément cool. Et comment je l'ai su? Je crois que c'était Twitter à l'époque. Genre juste voir des gens parler et un peu comme tu disais se poser des questions et tout. Et du coup, ça m'a amené à me poser les mêmes questions aussi.
À qui vous avez parlé de votre transidentité? Est-ce que vous avez mis du temps à en parler à vos proches?
Moi, du coup, j'en ai parlé avec mes amis en premier. Puis je l'ai dit à mes parents assez tôt, mais ça s'est très mal passé. Et du coup, on n'en a plus trop reparlé après. Et plutôt, on fait un peu comme si de rien n'était. Et petit à petit, j'en ai parlé aussi avec des amis d'enfance avec qui je suis en contact, mais pas très régulièrement. Et plutôt avec mes amis, ça a été ok. Il y a quand même toute une partie de ma famille avec qui je ne l'ai pas dit. Parce que la flemme. La flemme de m'outer, la flemme de devoir réexpliquer ce que c'est tout le temps, la flemme de devoir me justifier aussi, parce que c'est souvent ça qu'on te demande de pourquoi t'es trans, comment t'es sûr, est-ce que t'es sûr que t'as envie de faire des changements, est-ce que t'es sûr que c'est pas trop dur. Donc c'est assez fatigant en fait de s'outer finalement avec des personnes qui sont pas très au courant. Donc ça peut valoir le coup de le dire, mais des fois en fonction des situations des personnes, plutôt on préfère ne pas le dire.
Moi j'en ai parlé à quasi tout mon entourage sauf au travail. Plutôt dans l'ensemble ça va parce que les gens juste ont fait avec, je pense, la plupart du temps. Et la plupart de mes amis sont aussi trans. Du coup c'est plus facile aussi puisqu'ils savent ce que c'est au quotidien et les questions que ça peut être et tout.
Est-ce que c'est facile de se procurer des hormones?
Je dirais que c'est pas aussi simple que d'aller chercher un Doliprane à la pharmacie, mais c'est quand même de plus en plus facile parce qu'il y a de plus en plus de médecins qui en procurent. Mais je pense qu'il y a quelques années, c'était pas le cas et il fallait aller par exemple à Rennes de Brest pour aller voir des endocrinologues. Mais aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de médecins généralistes qui font ce qu'on appelle les primo-prescriptions, donc les premières prescriptions d'hormones. Donc ça devient de plus en plus facile.
Et est-ce que ça fait mal de prendre des hormones?
Non. C'est comme des piqûres de vaccins. C'est la même chose.
Est-ce que c'est dur d'être trans dans la vie quotidienne?
C'est moins dur qu'il y a quelques années, quelques dizaines d'années. Parce que la société a évolué, puisque les lois ont aussi changé. Après, il y a toujours plein de choses qui sont compliquées. l'accès à la santé, la reconnaissance, notamment légale, l'accès à la parentalité, par exemple. Enfin, il y a énormément de choses qui restent compliquées, mais enfin, c'est comme, je pense, un peu toutes les minorités, comme les personnes homosexuelles, les personnes handicapées, etc. Il y a plein de choses qui continuent à évoluer, quoi. Et ben, la reconnaissance légale, c'est pouvoir vivre dans son genre choisi et être reconnu comme vivant dans ce genre-là. Donc ça peut être un changement de prénom sur la carte d'identité. Ça peut être un changement de la petite mention M ou F sur la carte d'identité, sur la carte vitale, etc., quoi. Et maintenant, le changement de prénom, ça se fait à la mairie, donc c'est un peu plus simple. Par contre, par exemple, le changement de mention de sexe à l'état civil, donc sur la carte d'identité, il faut toujours aller au tribunal, il faut passer devant un juge qui décide si, si vous êtes vraiment trans ou pas, quoi. Donc c'est encore très long. Quand on fait la demande en tant que femme trans, donc en tant que personne qui était assignée homme avant, et qui va demander à avoir un F sur sa carte d'identité, il faut rentrer dans les stéréotypes un peu de ce que c'est une femme, quoi. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'avocats ou d'avocates qui aident à faire les démarches, qui vont demander aux gens de venir au jugement en jupe ou en robe, en étant maquillés, en ayant l'air... un peu les secrétaires dans les films des années 2000, très stéréotypés. Et pareil, inversement, quand on est un homme trans qui fait la demande, donc pour avoir le M sur la carte, il faut venir en chemise, en pantalon, c'est un peu un costume, en fait, de qu'est-ce que c'est un homme et qu'est-ce que c'est une femme, quoi.
Je dirais aussi, ça dépend aussi de ce à quoi on ressemble. Si on a ce qu'on appelle du passing ou pas, donc est-ce qu'on passe dans le genre qu'on a choisi. Par exemple, Oal, qui se définit comme un homme, il passe pour un homme. Moi, je me définis comme une personne non-binaire, donc pas comme une femme, pas comme un homme, un peu un entre-deux ou un en dehors de ça, sauf qu'il n'y a pas de passing non-binaire, il n'y a pas de stéréotype de les personnes non-binaires ressemblent à ça. Donc en fait, c'est toujours un truc continu de devoir dire aux gens en fait, non, je ne suis pas une femme. Et du coup, ça peut être très fatigant à la longue de jamais être reconnu en fait comme on se définit.
Est-ce que vous êtes beaucoup regardé dans la rue ?
Moi, je dirais que non, parce que ça se voit pas. Enfin, les gens me regardent et pensent pas « Ah, c'est une personne trans », donc en fait, je suis pas plus regardée que ça dans la rue, ou je suis regardée dans la rue en tant que femme, mais du coup, c'est encore différent.
Moi, je pense que c'est pareil. Je suis pas regardée parce que ça se voit que je suis une personne trans. Je suis regardée parce que, bon, là, je l'ai coupé, mais avant, j'avais une très longue barbe. Et du coup, c'est plus ça qui va être regardé. Mais je pense aussi parce que, comme tu disais, on a un passing. Mais il y a des amis qui n'ont pas forcément autant ou pas le même passing que nous, qui vont être beaucoup plus regardés parce que, par exemple, j'ai une amie qui est très grande et avec des traits dits très masculins. Et du coup, elle va être beaucoup plus regardée que moi. Genre reconnu comme une personne trans, quoi.
Est-ce que vous avez peur du regard des gens dans la rue ? Est-ce que vous avez peur des critiques ou des agressions ?
Du coup, pour moi, personnellement, non. Parce que je sais qu'il y a peu de risques que ça arrive. Mais du coup, j'ai peur des agressions ou des critiques pour mes amis chez qui ça se voit qu'ils et elles sont trans. C'est plus ça, ouais, qui me fait peur ou qui m'inquiète. Parce que ça arrive quand même assez régulièrement... en France ou dans le monde en général, quoi.
Est-ce que c'est mal la transphobie ?
Je pense que toutes les formes de discrimination sont vraiment pas chouettes, notamment parce que ça fait du mal aux personnes directement concernées, mais ça touche aussi les autres personnes. Je sais pas si vous avez suivi le truc des Jeux Olympiques un peu, mais par exemple, il y avait une boxeuse qui a été... je crois qu'elle était à deux doigts d'être disqualifiée ou un truc comme ça parce que ses taux de testostérone étaient trop élevés. Et donc, soi-disant, elle avait un avantage sur les autres compétitrices. Et en fait, c'était une femme cisgenre, donc qui avait été assignée femme à la naissance, quoi. Donc, il y a plein de critères qui sont pas du tout intéressants à regarder chez ce qu'on dit les hommes et les femmes, et où du coup ça va faire du mal et aux personnes directement concernées et à toutes les personnes qui sont pas exactement à 100% dans les normes, quoi.
Puis aussi c'est mal parce que ça fait du bien à personne. En fait, on discrimine les personnes trans, mais en fait le fait de discriminer les personnes trans, ça, comme tu dis, en fait ça met pas en valeur ni les personnes cisgenres ni personne, en fait, donc ça sert à rien.
Est-ce que vous pouvez donner des exemples de discrimination transphobe?
Ça va être par exemple le fait de galérer à trouver du travail parce que les employeurs ont pas envie d'embaucher des personnes qui sont visiblement trans parce que ils ont peur de l'effet que ça peut avoir sur l'équipe, ils ont peur de l'effet que ça peut avoir sur les clients. Il y a plein d'autres exemples, je sais pas si t'en as d'autres.
Ouais, en général, c'est l'accès aux choses, que ce soit le travail, le logement. Enfin, il y a plein de choses qui sont compliquées, auxquelles c'est compliqué d'accéder, parce que comme les gens connaissent pas grand-chose, ils vont soit avoir peur, soit être dégoûtés, et du coup vont pas vouloir échanger ou embaucher ou donner un logement, quoi.
Est-ce que les critiques anti-trans vous blessent ?
Oui, parce que en fait, notamment parce que les critiques, elles sont pas du tout fondées. Et elles font pas sens, en fait. Elles sont complètement... elles sont... Comment dire Ouais, elles sont... J'ai pas le mot.
Bêtes et méchantes.
Elles sont bêtes et méchantes, mais c'est qu'en fait, elles sont pas vraies aussi. C'est qu'en fait, on pourrait... Enfin, je sais pas, pourrait peut-être y avoir des critiques anti-trans qui seraient fondées sur des choses réelles. Mais là, en fait, c'est vraiment pas le cas. Et c'est vraiment des inventions pures et dures. Et du coup... En fait, c'est aussi ça qui blesse, c'est qu'il n'y a même pas de recherche du côté des personnes qui font les critiques. Et juste, ils disent des choses sans connaître, quoi.
Vous avez accepté notre interview. Pourquoi avez-vous décidé d'en parler publiquement de la transidentité ?
Eh ben, moi, j'ai accepté parce que je trouve ça important de rendre accessibles les informations en général, et notamment sur des sujets qui ne sont pas du tout connus. Et qui sont très diabolisés quand il s'agit de jeunes. Il y a énormément de, enfin notamment de, par exemple d'associations de parents d'élèves ou des choses comme ça qui vont demander à faire interdire des ateliers ou des cours parce que ça va parler de, en général, les personnes LGBTQIA+, et parce que c'est toujours hyper intéressant de parler avec des gens qui n'ont pas notre âge de choses, soit de parler de choses où on est concerné, soit juste où ça nous touche, quoi. Et donc, je trouve ça toujours très chouette de faire ça.
Et même, comme je disais, bah, du coup, les critiques, elles ne sont pas fondées. Et en fait, c'est aussi hyper dur de se faire une idée de bah, c'est quoi les personnes trans, c'est quoi leur vécu quand on n'en connaît pas, quand on n'en rencontre jamais. Et que sur Internet, on trouve tout et rien. Donc, c'est toujours hyper chouette d'aller discuter avec les personnes et leur faire se rendre compte qu'on est des personnes normales, j'ai envie de dire, ou classiques. Enfin, qu'il n'y a rien qui change vraiment d'autres personnes, quoi.
Est-ce que vous en avez déjà eu honte d'en parler ?
Moi, je pense que oui. Enfin, je ne sais pas si c'est une honte ou si c'est aussi une peur du regard des autres. Du coup, bah, qui vient et qui change, en fait, et on sent... on peut sentir du dégoût de la personne, on peut sentir un rejet de la personne. Et quand c'est quelqu'un qu'on connaît, ben en fait, ça peut faire mal aussi. Donc je pense que ouais, un peu quand même.
Ouais, moi, j'en ai pas parlé au travail, par exemple. Il y a le droit de dire des insultes ou pas ?
Ouais.
Bah, notamment parce que j'entends souvent des mots comme enculé ou des choses comme ça. Et je me dis que si j'en parle potentiellement, ça peut être... les insultes telles qu'elles sont utilisées au travail, c'est sous le ton de la rigolade. Mais je me dis que potentiellement, si je dis que je suis trans, ce sera plus sous le ton de la rigolade et j'ai trop la flemme de passer 20 heures par semaine à devoir supporter ça, quoi.
Pourquoi vous avez créé l'association Brest la Trans non-binaire et en questionnement ?
L'association, on l'a créée il y a 3 ans ? 2 ans ? Il y a quelques années. Parce que au moment où on a eu envie de s'investir dans une association pour les personnes trans, il n'y en avait plus sur Brest. Et du coup, on s'est dit que ben, si on voulait faire ce qu'on voulait faire, il fallait la créer. Et ce qu'on voulait faire, c'était un espace pour les personnes directement concernées, donc les personnes trans, les personnes non-binaires, et aussi les personnes qui se posent des questions, d'avoir un espace pour en parler, pour ben, pouvoir poser ces questions, pour pouvoir juste être avec des personnes qui se ressemblent, quoi. Et aussi de faire un côté un peu plus, comme on disait, pédagogique, de donner accès aux informations, de démystifier un peu ce que c'est une personne trans, enfin ce que sont les personnes trans en général, quoi.
À quoi sert votre association ?
Bah du coup, comme Oal vient de le dire, ça, elle sert donc de support en fait pour les personnes trans, pour se rencontrer, pour aussi en fait lutter pour de meilleurs droits, avoir mieux accès à la santé, pouvoir avoir du poids. Par exemple, en ce moment, il y a un peu une problématique au niveau des changements de prénom où la mairie, elle en refuse beaucoup. Et du coup, l'association, elle sert bah, à aller pouvoir rencontrer la mairie, voir ce qui bloque et pouvoir régler le problème, par exemple. Et donc, du coup, on fait aussi ouais, des ateliers de sensibilisation. Donc, comme là, on est en train de faire, mais on fait ça aussi avec des professionnels de santé, des professionnels de l'éducation, pour que les personnes trans elles soient mieux connues et du coup qu'elles soient mieux accueillies dans les endroits où elles vont.
Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui participe à votre association ?
On est une petite dizaine de personnes à organiser les activités et il y a je sais pas une cinquantaine de personnes qui tournent autour, qui viennent à nos groupes de parole, nos permanences, nos moments conviviaux à peu près.
Est-ce que l'association a reçu des critiques ?
Non, je crois pas. Ou pas directement, en tout cas.
Il y a eu une fois, on a participé à, une journée de, enfin une matinée de discussion avec le centre social du Relais Quirion, sur leur page Facebook, je crois, il y a eu des commentaires disant que c'était pas normal de faire une matinée comme ça. C'était juste de la discussion avec des cafés, quoi. Et la personne qui gère la page a direct supprimé. Mais je crois que sinon, c'est tout. Enfin, en tout cas, où on est au courant, il n'y a que ça, je crois.
C'est quoi les revendications de Brest-la-Trans non-binaire et en questionnement ?
Les revendications, je pense, c'est un peu toutes les mêmes pour les assos trans. C'est que on ait un meilleur accès aux soins pour nos transitions, donc un meilleur accès aux hormones, un meilleur accès aux chirurgies qui sont très compliquées et potentiellement très chères, un meilleur accès à la reconnaissance légale. En fait, ce qui est demandé, c'est que le changement de sexe à l'état civil, il se fasse en mairie et plus au tribunal, donc que ce soit une simple demande comme pour les prénoms. Et aussi, en fait, une des revendications, c'est de... un arrêt total des discriminations. Donc c'est un très grand objectif. Mais le but, c'est de lutter pour qu'il y en ait de moins en moins. Je pense qu'il y en a d'autres que j'oublie, mais les plus importantes, j'ai l'impression que c'est ça.
Est-ce que tu peux faire un petit point explicatif sur les chirurgies ?
Ouais. Les chirurgies, il y en a plein. Il n'y a pas que la chirurgie de changement de génitaux. Il y a plein de chirurgies qui sont possibles et différentes en fonction de ce qu'on a envie. Et en fait, c'est très compliqué d'y accéder parce que dans le public, en fait, c'est très, très cadré et il faut en général avoir des suivis psy ou psychiatre avant. Et en fait, du coup, c'est très long pour y avoir droit. Du coup, la plupart des personnes trans vont dans le privé, mais où du coup, là, il y a des... En fait, c'est plus cher, du coup, on paye et c'est pas remboursé entièrement par la Sécu. Et donc, du coup, il y a peu de chirurgiens qui le font aussi. La plupart des personnes sont obligées de faire plusieurs heures de route pour aller se faire opérer. Et il y a peu de place. Donc c'est aussi des temps d'attente qui sont très longs.
Merci à Malo et Oal d'avoir répondu à toutes nos questions. Bonne écoute et à bientôt sur Transistor.